novembre pour déposer votre candidature sur un site internet prixdécouverte.com. RFI à Paris, il va être 19h10.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Ah là là, comment commencer cette émission? On pourrait parler d'actualité politique. Non, on va aller, ça c'est trop mouvant en ce moment. On va essayer de partir sur des bases beaucoup plus stables, comme le fait que jusqu'à 19h, on est ensemble pour aborder les agitations locales, culturelles, angevines, à Angers, mais aussi dans le département, même dans les frontières historiques de l'Anjou. Nous allons parfois jusqu'à La Flèche, Château-Gontier, et même à Loudun, parfois. Mais oui, regardez sur une carte, l'Anjou, ça va jusqu'à là-bas. En principe, on va être accompagné ce soir par Florent Boulette du Théâtre du Champ de Bataille, le directeur, programmateur, le chef d'orchestre de cette salle de spectacle, mais pas que, puisque bien évidemment il y a des actions culturelles, il y a aussi des expositions, il y a plein d'activités qui tournent, et justement c'est une nouvelle saison qui s'ouvre avec une nouvelle plaquette. Hier, je sais plus avec qui c'était. Et Sidonie, tu te rappelles, c'est avec le Shabada, on a vu le débat sur la couleur de leur plaquette.
Oui, exactement.
Si c'était vert ou jaune. Là, je pense qu'on va avoir un débat aussi si c'est vert ou bleu.
Bleu ciel.
Bleu ciel. On demandera à Florent tout à l'heure. On va surtout parler de la saison, de ce qui est à l'intérieur de la plaquette, bien évidemment. Émission Topette qui sera ponctuée en deuxième partie de programme avec l'interview par téléphone de Anne-Sophie Billet, qui est la directrice de l'école maternelle Petit Dôme, qui aborde la pédagogie Montessori du côté du Lion d'Angers. Portes ouvertes et réunion d'information ce samedi 11 octobre. Elle sera avec nous par téléphone tout à l'heure. Et puisqu'on parle de parentalité un petit peu, justement, bonsoir Anaïs.
Bonsoir Pierre-Benoît.
La daronne angevine, ça y est.
Ça y est, elle est là. Elle est en colère.
Elle est en colère?
Ouais, un coup de gueule ce soir.
Ah oui, c'est vrai que tu l'avais annoncé en plus. Bon, tout à l'heure, autour de 18h30, les semaines d'information sur la santé mentale aussi, pendant deux semaines. D'ailleurs, on reçoit le collectif organisateur jeudi. Et autour de 18h20, on aura le deuxième épisode de la série de podcasts qui ont diffusé pendant ces deux semaines. Je cherche tout simplement la petite virgule d'intro, puisque Topette, ça commence.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Va-t-elle ou pas parler de l'actualité politique dans son flash? Réponse tout de suite, puisqu'on fait le point sur les actus à Angers dans le département avec toi, Sidonie.
Si vous êtes fan des tatouages ou simplement curieux d'en découvrir l'univers, j'espère que vous n'avez pas manqué la première édition du Tattoo Fest d'Angers. Les 4 et 5 octobre, au parc des expositions, l'événement proposait des concerts, plus de 350 exposants et bien sûr de multiples animations autour du tatouage. En tout, ce week-end haut en couleur a rassemblé 130 tatoueurs venus des 4 coins de la France. Et il aurait attiré près de 17 000 visiteurs. Ce succès permet déjà de programmer une deuxième édition pour l'année prochaine, si jamais vous l'aviez manqué. Côté sport, depuis le 1er octobre, la saison féminine de basket a repris. Et c'est à la troisième place du championnat de France que se positionne l'UFAB, l'équipe d'Angers, grâce à ses deux victoires consécutives sur ses deux matchs joués. On peut dire que c'est un démarrage prometteur. Et je vous invite donc à les suivre pour découvrir une équipe ambitieuse et pleine de talent. Ainsi que l'équipe masculine de Cholet, qui affiche exactement les mêmes scores et mérite tout autant notre soutien. Cependant, l'équipe de Cholet Basket se verra peut-être annuler un match, car ils doivent jouer le 22 octobre contre l'Hapoël Holon, un club israélien. Et pour dénoncer les actes du gouvernement israélien face à la population palestinienne, il a été mis en place depuis le 3 octobre une pétition sur le site change.org pour faire annuler ce match. Et en seulement un jour, 117 signatures ont été comptées. Et pour appuyer le mouvement, la France insoumise du Maine-et-Loire demande à la Fédération française de basketball l'annulation du match et, en plus, l'exclusion définitive du club de l'Hapoël Holon de la Coupe d'Europe de basket 2025-2026. Et en attendant, le verdict des instances. Un appel au boycott est lancé par la population locale pour ne pas rester dans l'attente passivement.
Merci beaucoup, Sidonie, pour ce point sur les actus ici dans le département et à Angers. J'ai parlé de jeudi, mais demain, nous serons avec la ferme des Folies Champêtres, Broc. Voilà, Broc, c'est dans le Maine-et-Loire. C'est un petit village perdu dans le nord-est, derrière Baugé, quasiment dans un autre département, celui de la Sarthe, il me semble, presque avec eux aussi. Bon, bref, on n'est pas là. Ça fait deux fois que je parle de géographie dans cette émission. On va plutôt revenir à Angers. On va aller du côté de la Doutre pour parler du champ de bataille avec notre invité de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et la question de la soirée. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Florent Goulet, tu es directeur programmateur du théâtre du champ de bataille. La question de la soirée, cette plaquette du champ de bataille 2025-2026 est-elle bleue, verte, orange, jaune? Anaïs, c'est un pronostic? D'ailleurs, tes boucles d'oreilles sont de même couleur, j'ai l'impression.
Oui, je dirais bleu-vert.
Bleu-vert.
Je ne tranche pas.
Bleu vert, et tu disais de Sidonie?
Bleu ciel, bleu clair. Ouais.
Bleu ciel, on est plutôt sur du bleu, Florent.
Et alors, bah, moi, sur les couleurs, je délègue vraiment ça parce que je sais jamais trop quoi en penser. Il se trouve que c'est un Pantone, donc un type de couleur bien particulier. Donc c'est pas un mélange de RVB pour les gens qui, ou de CMJN pour ceux que ça intéresse, ce genre de choses. C'est une couleur unique, à ton unique. Voilà. Et on prend ce type de couleur qui coûte un peu plus cher parce qu'on les trouve très belles. Alors elle est bleue, verte, comme vous voulez, elle est vraiment de la couleur que vous voulez.
Et en tout cas, oui, c'est vrai qu'elle est très belle. Le théâtre du champ de bataille, saison 25-26, saison qui semble bucolique. Alors on a un arbre qui est coupé. C'est une souche d'arbre. Est-ce que ça veut dire que ça repart? Est-ce qu'on a eu des coupes? Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être eu un clin d'œil graphiquement sur les choix qui ont été faits? On a du lierre aussi, et c'est très beau. Est-ce que il y a des significations particulières ou c'est simplement purement esthétique, Florent?
Au début, on voulait signifier quand même tout ce qui était coupe budgétaire, mais maltraitance du secteur associatif en général. On avait des trucs un peu subtils, et puis à un moment, on s'est dit, tiens, on va être pas très subtil, on va être très clair. Donc, cet arbre a clairement été tronçonné, par qui, je vous laisse, chacun dira ce qu'il a envie.
Des personnes qui ont des tronçonneuses.
Ouais, voilà. Il y a des petites pousses, effectivement, qui repoussent, mais elles sont vachement fragiles, si on regarde bien. Il y a des animaux un peu craintifs qui essayent de survivre là-dedans, qui essayent de se débrouiller. Alors, ils sont toujours là, mais ils sont quand même bien fragiles. Voilà.
On est presque sur un champ de bataille, du coup.
Ouais, c'est un peu ça.
Même si, subtilité, précisons-le, champ de bataille, c'est sans S, puisque c'est pas tout à fait le même champ que le champ qu'on entend, champ de bataille. Mais bon, ça, on va laisser un petit peu de côté tous les côtés formes, on va plutôt aller sur le fond, puisque si on ouvre cette plaquette, eh ben, elle est bien remplie avec beaucoup de choses. Déjà, bon, il y a des infos pratiques en fin de plaquette, on a aussi des ateliers, du cinéma, des expositions, beaucoup de spectacles. Alors, je les regarde comme ça à la volée, Florent, mais j'imagine qu'on a de tout médium, on a du théâtre, peut-être de la danse, du cinéma aussi, on avait parlé beaucoup cinéma l'an passé, je crois, et même des ateliers radiophoniques. Est-ce que cette saison, particulièrement, il y a eu un fil comme ça qui s'est dégagé justement pour aller protéger cette fragilité culturelle que cherche à défendre le champ de bataille, le théâtre du champ de bataille?
Eh bien, on a avant tout essayé de continuer avec beaucoup d'ambition et d'humilité aussi, hein, parce qu'effectivement, on est dans une situation complexe. Les personnes qui sont le plus touchées, c'est les artistes, avant tout. Voilà, nous aussi, mais disons que voilà, c'est surtout eux qui sont malheureusement souvent la variable d'ajustement. On essaie que ce soit pas le cas. Donc, on a autant de spectacles, autant de créations, un peu plus d'Angevin. On a un petit peu moins été voir du côté des autres départements ou régions, mais ils sont toujours là aussi parce que ça, on veut pas laisser tomber. On veut continuer à faire venir ici des gens pour l'émulation, pour la découverte. Donc beaucoup de compagnies angevines, mais toujours beaucoup de créations de spectacles qui sont en résidence chez nous et puis ensuite qui sont créés pour les premières. Là, c'était le cas la semaine dernière, par exemple. Ce sera le cas après les vacances. Donc ça, on le garde et on continue le projet. On a un projet d'exposition tout le temps, en fait, en continu, il y a des expos au champ de bataille. Et le cinéma, où on a quelques actions qu'on va peut-être développer aussi, mais l'actu forte pour nous, c'est ce week-end, puisqu'on a une soirée ciné-cours avec l'association Courrier 49.
Voilà, Courrier 49 qui propose, qui regroupe des personnes qui font du cinéma, des courts-métrages, mais pas que. Alors là, c'est une soirée projection, c'est innovant ou c'est des choses qui s'étaient déjà faites avec avec Courrier 49?
Alors, on l'avait fait l'année dernière. En fait, eux font des soirées courts-métrages où ils donc plutôt des productions des Pays de la Loire. Ils invitent les équipes, alors ça peut être les réalisateurs et les actrices ou d'autres personnes de l'équipe. Donc, on voit les films et après, on discute en direct avec les équipes. Ils font des soirées comme ça aux Folies Angevines, où il y a 4-5 films qui sont passés. Nous, là, on fait une soirée double, c'est-à-dire il y a 10 films de passé, avec une grosse pause au milieu, où on offre un petit truc à manger, un petit truc à boire au public. Donc ça fait une soirée de court-métrage qui est assez longue, puisque ça finit vers minuit, minuit et demi, on voit 10 films, on mange, on boit un verre, enfin c'est assez convivial. L'année dernière, c'était complet, c'était super, donc voilà, on a retenté avec eux.
Alors c'est pas très partial hein, en termes de communication. Je fais juste un clin d'œil à Julien Ogdé, un des chroniqueurs volants, parce que je crois qu'il présente le conte de Tombé Cristo.
Oui.
Voilà, donc il nous en avait parlé. Donc je sais qu'il est là ce soir-là. Sur les infos pratiques, puisqu'on parle de cet événement qui arrive, est-ce qu'on doit réserver, payer, combien de temps?
Toujours mieux de réserver sur notre site, parce que nous, ça nous rassure beaucoup d'avoir les résas à l'avance. Et puis ça garantit la place, parce que l'année dernière, c'était complet. C'est 6 €, il y a 10 films, il y a une pause avec un verre et un petit brunch offert. Enfin brunch, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un petit... voilà.
On peut manger un petit peu.
On peut manger.
Voilà, on peut se restaurer. Anaïs, je te voyais feuilleter le programme, du coup. Est-ce que tu as une date peut-être qui t'a tapé dans l'œil, toi?
Oui, j'ai regardé effectivement ce qu'ils proposaient au niveau de la programmation enfant et j'ai vu plusieurs choses. La prochaine, et c'est top, j'ai vu que c'est à partir de 3 ans. Et ça, c'est rare de trouver des spectacles à partir de 3 ans. Et là, j'ai vu que c'était le 3 décembre et le 6 décembre pour ce spectacle-là. Avec plusieurs créneaux horaires, donc ça peut être intéressant effectivement pour les enfants.
Ça peut être intéressant pour les enfants. Alors là, on est en décembre, je pense qu'on aura le temps, Florent, puisque bien évidemment, le théâtre du champ de bataille revient tous les mois, on pourra peut-être reparler plus précisément. On va parler dans quelques instants aussi des publics, c'est intéressant ce que tu dis Anaïs. Les enfants, les adultes, les personnes plus âgées, un théâtre de quartier. Tu gardes les réponses au chaud pour l'instant, Florent. Je me tourne juste vers Sidonie d'abord, puisque elle a compris que j'allais lui poser la question. Elle est aussi en train de feuilleter. Mais tout simplement, Sidonie, alors t'es pas tout à fait sur Angers, t'es plutôt au nord. Mais est-ce que tu connaissais, toi, le théâtre du champ de bataille, par exemple?
Non, du tout. Mais du coup, ça m'a donné envie de le découvrir.
Ah, avec une date peut-être en particulier qui arrive ou...
Non, je vais feuilleter plus et je vais voir lequel je vais voir.
Voilà, elle va faire son choix. C'est le menu de la soirée. Elle va faire le choix de son spectacle. On continue à en parler du théâtre du champ de bataille, bien évidemment, de cette rentrée qui s'est faite le 20 septembre, je crois,
oui.
de mémoire. Florent, tu restes avec nous, bien évidemment, tout à l'heure. Anaïs, tu nous parleras de la daronne angevine que tu es. Avant tout ça, on fait un détour par le podcast des semaines d'information sur la santé mentale. C'est le 2e épisode sur 8 qu'on diffuse jusqu'à la semaine prochaine.
Bienvenue dans cette capsule dédiée à l'isolement social dans le quartier de Belbeil sur Angers et quelle association aide à en sortir. Belbeil est un quartier vivant, en pleine mutation, situé à l'ouest d'Angers. Il regroupe une population diverse, étudiants, familles, retraités, personnes en situation de précarité, mais cette diversité s'accompagne parfois d'un sentiment d'isolement, notamment chez les plus fragiles. Certaines personnes âgées vivent seules, loin de leur famille. D'autres, comme des jeunes déscolarisés ou des demandeurs d'emploi, perdent peu à peu leurs repères. Le manque d'accès aux transports, aux lieux culturels ou aux services peut accentuer ce repli sur soi. Face à ce constat, de nombreuses associations locales s'engagent pour retisser le lien et rompre l'isolement. Le centre Jacques Tati, la maison pour tous de Belbeil, est un acteur central. Il organise des ateliers créatifs, des événements culturels et des repas partagés. Il crée des espaces où les habitants peuvent se rencontrer, échanger, apprendre ensemble. La régie de quartier d'Angers, dont le but est d'autonomiser les habitants, revitaliser les quartiers et favoriser l'épanouissement collectif, propose des chantiers d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi. Ces actions permettent non seulement de retrouver une activité, mais aussi de renouer avec les autres. Le Secours catholique, très actif dans le quartier, organise des moments conviviaux, des groupes de parole et des actions de soutien pour les familles en difficulté. L'association Les Petits Débrouillards, quant à elle, mène des ateliers scientifiques et éducatifs dans l'espace public, en particulier pour les enfants et les jeunes. L'idée est d'apprendre ensemble, tout en s'amusant. Mais ce n'est pas tout. Le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Belbeil, qui accueille des demandeurs d'asile, joue aussi un rôle essentiel dans l'intégration des personnes exilées, souvent confrontées à un isolement extrême. Il organise des maraudes. Le CADA propose un lieu d'accueil de jour, un centre d'hébergement, des logements accompagnés, un accueil de demandeurs d'asile et des réfugiés et un accompagnement social en santé. L'association Relais Accueil Proximité propose des permanences, de l'aide administrative et des activités collectives pour accompagner les habitants dans leurs démarches et lutter contre l'exclusion. Enfin, des structures comme les Restos du Cœur sont des lieux ressources où l'on peut se restaurer, parler, rencontrer des bénévoles et reprendre pied. Toutes ces initiatives ont un objectif commun, renforcer le lien social. À Belbeil, la lutte contre l'isolement passe par des petits gestes, des rencontres et surtout par une volonté collective de prendre soin les uns des autres.
Le podcast des SISM, semaine d'information sur la santé mentale du 6 octobre pendant deux semaines, donc jusqu'au 17 octobre, en tout cas pour nous, 16 octobre, même pour la diffusion des podcasts que vous pouvez déjà retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, radio-g.fr.
Loupette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Et juste avant ce petit intermède, cette petite intermède, Florent, nous étions en train de parler bien évidemment du théâtre, du champ de bataille. On a parlé de la plaquette, on a commencé par le côté esthétique communicatif. On a parlé un petit peu des temps forts, du temps fort de ce week-end aussi. On a commencé à prendre du temps plus loin dans la saison. Et je posais la question, du coup, sur Anaïs soulevait le fait qu'il y avait de la programmation pour les enfants. Sidonie est plus jeune, elle peut peut-être être aussi intéressée par certains spectacles. Au niveau des publics et du projet du TCB, le théâtre du champ de bataille, comment on pourra le définir simplement? Est-ce qu'on s'adresse à tout le monde?
Alors par définition, oui. Nous, on est une association, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais on travaille comme un théâtre public, c'est-à-dire pour tous. Voilà, donc on s'adresse à tous les publics, on a vocation à s'adresser à tout le monde. On accueille beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, de lycées, beaucoup de personnes âgées, des plus jeunes, enfin des étudiants. C'est comme tous les lieux qui défendent une politique publique de la culture, c'est des lieux qui doivent être ouverts à tous. Voilà, sans aucune distinction de quoi que ce soit. Voilà.
Donc ça, c'est l'idée phare du théâtre du champ de bataille. Si on parle de l'effectif, on refait les présentations évidemment puisqu'on est en début de saison. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne connaîtraient pas, comme Sidonie, le théâtre du champ de bataille. Tu es là, toi. Il y a donc c'est une association, j'imagine, des bénévoles, peut-être une équipe de permanents, des personnes qui viennent aussi plus ponctuellement en stage, en service civique.
Alors on est deux permanents, Marie-Laure et moi. Il y a deux volontaires qui font toute la saison avec nous, donc qui arrivent très bientôt, qui vont être là jusqu'à début juin. Il y a aussi 25 bénévoles à peu près et un CA. Donc je le dis, l'assemblée générale, elle est ce vendredi. Donc si on est intéressé pour découvrir le projet, voir s'y investir un peu plus, c'est une occasion possible. C'est ouvert à tous. Seuls les adhérents peuvent voter, mais on peut venir même quand on n'est pas adhérent. C'est vendredi à 19h au théâtre du champ de bataille.
Voilà, bah l'appel est lancé, il suffit simplement d'y aller et peut-être de rejoindre l'aventure du champ de bataille. Est-ce qu'on a des projets qu'on va essayer de développer cette année au cours de la saison du côté du TCB? Moi j'ai un très lointain souvenir d'un projet avec une Rosalie, de la poésie. Je sais qu'il y a souvent des choses comme ça où on va hors les murs, c'est toujours d'actualité.
Oui, on a plusieurs projets en tête qui vont aussi beaucoup se caler avec les volontaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent aussi de leurs envies. On va accueillir un festival d'improvisation professionnelle cette année qui est organisé par la compagnie La Belle Chute, donc c'est pas dans le programme. Ce sera en mars, il y aura des spectacles pour les enfants, les adultes, et ce sera que des compagnies professionnelles qui font de l'impro. Et puis on a un événement le 30 et 31 mai qui nous tient à cœur, qui s'appelle May Day, qui est un événement festif et militant, pour parler à la fois de la maltraitance vécue par le secteur associatif, mais de manière décalée, peut-être aussi avant tout faire la fête ensemble, trouver des manières d'inclure d'autres gens que le spectacle vivant, parce que voilà, moi je trouve que la problématique, elle est pas liée à nous, mais au social, à l'éducation, enfin à beaucoup de choses qui sont censées faire du bien aux gens et qui sont remises en cause. Que ce soit un événement festif, voilà. D'ailleurs, s'il y a des assos, des gens qui ont envie de réfléchir à ça avec nous, parce que pour l'instant, on appelle ça un truc, parce qu'on sait pas exactement quelle forme ce sera. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on fera une fête autour de ça, parce que moi, j'aimais bien le slogan qu'il y a longtemps qui disait la grève, oui, mais la fête aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Donc, ça, ce sera en mai.
Donc, le théâtre du champ de bataille est définitivement militant, engagé pour la culture, pour la défense. On reste pas d'agressivité comme tu dis, mais voilà, on dit faut continuer à faire tout ça et on va se battre s'il faut, parce qu'on a commencé avec l'événement que tu décris, puis la partie graphique sur le
oui.
La présentation, on l'affiche clairement tout ça.
Oui, mais moi je crois beaucoup à la lutte joyeuse aussi. Je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, il y a des moments de colère pure comme il y a janvier, février dernier avec les coupes de la région. Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je vois des artistes qui ont très envie de jouer, qui ont toujours autant d'ambition pour créer des spectacles avec plein d'ambition sur le plateau, pas du tout réduire pour réduire. Et il y a plein de publics dans les salles, au quai, au Shabada, enfin pour les gens qui y vont. Il y a des exceptions forcément, mais il y a du monde dans nos salles. Donc le public est présent, les publics sont divers, les publics sont contents d'être là. Et donc ça donne une vraie envie de continuer, d'interroger ça et puis de se marrer en fait aussi. Voilà, parce que y a, ça c'est encore autorisé, donc du coup on va continuer à le faire. Mais voilà, il y a quand même des gens qui sont dans nos salles, qui sont là, donc on continue.
La lutte joyeuse. Je ne sais pas si Anaïs ou si Denis voulaient réagir à ce concept de lutte joyeuse qu'évoque Florent, la nécessité importante de défendre la culture, par exemple Anaïs.
Ah bah moi je trouve ça super, et effectivement il y a la colère qui est là, mais on peut aussi en faire autre chose. Et je trouve que c'est un beau projet, la lutte joyeuse.
Et ben voilà, donc ne serait-ce que de soutenir en allant voir les spectacles de cette programmation, c'est déjà aussi participer à cette lutte joyeuse. Alors, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as un coup de cœur ? Bien évidemment que ça va être très difficile, c'est toi qui as fait la programmation. Comme aurait dit Stéphane Martin, le programmateur du Shabada qui était là hier, il a déjà fait un premier que des coups de cœur en faisant cette programmation-là, donc là ce serait un peu la même chose. Mais si on peut quand même parler d'un ou deux spectacles, pas qui valent plus le coup qu'un autre, mais qu'on pourrait mettre en avant là, si, qui vont arriver chronologiquement. Je vois, il y a Intro, tu parlais tout à l'heure de la volonté de mettre en avant aussi le local, c'est Dylan Rossin avec Minuit 5 qui propose ça, c'est du local pour le coup.
Oui, c'est son premier spectacle. Il était au conservatoire l'année dernière en cycle à option professionnelle. Je sais pas si c'est exactement ça le terme, mais voilà, il a travaillé donc avec les équipes du Quai. Et là, c'est un spectacle qu'il a écrit, qui part d'un court métrage dans lequel il a joué. Et c'est un spectacle qui est soutenu aussi par le Quai, puisque la création technique, lumière, son, vidéo, ce sont des équipes du Quai qui viennent travailler chez nous pendant 15 jours pour finir ce spectacle qui nous parle d'hyperculture du sexe dans les milieux queer, d'homophobie aussi, de masculinité, de féminité. Donc c'est un spectacle qui est... moi j'ai vu une sortie de résidence que j'ai beaucoup aimé parce que c'est avant tout du théâtre, un récit, une histoire où il y a des moments très drôles, des moments assez difficiles aussi. C'est de l'autofiction, donc c'est un peu à la mode ces formes-là en ce moment, mais il y a de la vidéo, il y a un super comédien, voilà. Donc on est ravis de l'accueillir. Et puis la toute petite actualité de cette semaine, c'est jeudi, cette année en fait on va ouvrir des résidences au tout public parce qu'on souhaite, on trouve important de montrer le travail qu'on fait aussi en création. Donc on aura 3 ou 4 rendez-vous dans l'année pour découvrir un travail en cours, ça dure une demi-heure plus échange avec le public et c'est gratuit, il faut réserver sur notre site. Là ça s'appelle Zamba, c'est jeudi à 18h.
C'est ce qu'on appelle des bords de plateau, non ? C'est ça ?
Ouais, voilà, mais il y a une résidence, il y a un travail en cours d'une demi-heure, voilà, et on peut discuter. Donc habituellement c'est réservé aux programmateurs, programmatrices. Et là, on s'est dit que c'était intéressant que les publics voient aussi rentrer un peu dans la machine.
Et est-ce qu'on a des... alors, j'ai deux questions qui sont en même temps, donc je vais rester sur la dernière que j'ai en tête. Je voyais les partenaires, donc j'imagine qu'il y a des financeurs. On parlait de cette lutte joyeuse et tout. Ça va, si on pose la question, financièrement, le théâtre du champ de bataille, on tient la route, on n'est pas sur des perspectives sombres.
Voilà, c'est des lieux fragiles. Non, mais ça va. En fait, c'est que c'est des lieux fragiles, c'est des choses remises en question, mais je voulais... sans aucune question politique derrière, vraiment juste très factuel, la ville d'Angers a maintenu son soutien au secteur culturel, a même proposé des aides exceptionnelles l'année dernière pour amortir légèrement le choc des coupes régionales. Et le département, en ce qui concerne le champ de bataille, a maintenu son aide au fonctionnement. Voilà, je sais qu'il y a eu des gens. Donc pour nous, c'est important de le dire quand même. Ces institutions-là, c'est pas toutes les institutions qui sabrent dans la culture au niveau national. Il y en a qui tiennent le coup, il y en a qui développent, et il faut les saluer aussi.
Oui, voilà, c'est important de dire. C'est comme les avis un petit peu quand on sort d'un restaurant. On est toujours prompt à critiquer quand on n'est pas content, et quand on est content, c'est aussi, que ça a été bien fait, quand on est soutenu et qu'on a bien mangé, par exemple. Je sais pas si le parallèle est.
Enfin, c'est juste pour pas tout mélanger. Enfin, c'est pas pour les mettre tous dans le même panier sur ce sujet-là. En tout cas, il y en a qui tiennent la route, et la ville d'Angers, le département Maine-et-Loire, pour le champ de bataille, a tenu la route.
Et voilà, et ça c'est important de le préciser. Florent, tu restes avec nous, on va continuer à parler du théâtre du champ de bataille, on va surtout conclure tout à l'heure, puisque dans quelques instants on va être avec Anne-Sophie Billet par téléphone pour parler de l'école Petit Dôme avec la méthode Montessori et naturelle, enfin découverte par la nature, qui est au Lyon d'Angers et qui va peut-être ouvrir une école primaire. Là c'est l'école maternelle, une école primaire, donc réunion d'information et portes ouvertes ce samedi 11 octobre. Mais avant tout ça, on va faire un petit détour par un peu de parentalité. C'est l'heure de la daronne angevine. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'égalité femmes-hommes.
Ah bon ? Ben, je croyais que c'était sur la parentalité ta chronique.
Mais justement, Pierre-Benoît, parce qu'en fait, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes commence avec nos enfants, avec l'éducation qu'on leur donne et les valeurs qu'on leur transmet. Attention, histoire vraie. Ma fille de 4 ans me montre une barrette à cheveux et me dit « c'est celle de Jules ». Jules, 4 ans aussi, cheveux longs bouclés. Logique, il a besoin d'attacher ses cheveux. Le lendemain, je croise sa mère au petit Jules devant le portail de l'école et je lui tends la barrette. Ma fille m'a dit qu'elle était à votre fils. Et là, le regard de cette femme, le dégoût, presque un haut-le-cœur. Et elle me répond « bah non, c'est pas à nous. Déjà, Jules est un garçon, donc il met pas de barrette. » Voilà. Cet enfant n'a pas le droit d'avoir le visage dégagé parce qu'il a un pénis. Voilà. En fait, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et croyez-moi, en 10 ans de parentalité, moi, j'en ai vu des dingueries sexistes chez les enfants. Le mois dernier, en salle d'attente du pédiatre, un petit garçon pleure. 3 ans, pas plus. Et là, sa mère lui dit « arrête de pleurer, on dirait une fille. » Voilà. Parce que c'est un garçon, il n'a pas le droit de souffrir et il n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. À la crèche, quand mon fils arrive avec une couette sur la tête, la professionnelle lui dit « oh bah t'as une couette, mais c'est pour les filles. » « Bah non, Josiane, les élastiques c'est pour les cheveux. » Cet été, ma grande de 10 ans est partie en colo raid aventure. Bon bah, 4 filles, 20 garçons. Résultat, une semaine de réflexion sexiste de la part des autres garçons parce qu'elle faisait du sport ou qu'elle était meilleure qu'eux. Donc voilà. Et encore, je vous parle pas des gommettes pour garçons qu'on trouve encore en grande surface. C'est vrai, hein. Et tout ça, c'est grave, en fait. Parce que c'est pas juste une question de couleur ou de jouet, c'est une question de valeur. À force de dire à nos fils que faire comme une fille, être une fille, c'est nul, dégradant, dévalorisé, ben en fait, on leur apprend que la sensibilité, l'émotion et la tendresse, c'est honteux. Dans les cours de récré, aujourd'hui, les filles, elles peuvent jouer au foot, grimper aux arbres, ou pour le carnaval, elles peuvent se déguiser en policier. Mais un garçon en robe de princesse, avec un pull rose ou une barrette, ben c'est toujours pas accepté. Alors chez nous, avec mes fils, on a une règle. Quand ils se posent une question et qu'ils me demandent « Maman, est-ce que ça c'est pour les filles ?» Alors on s'interroge. On se dit « Est-ce que le fait d'avoir un pénis m'empêche de faire ça, d'avoir ça ou de jouer à ça ?» Ben vous savez quoi ? La réponse est quasiment toujours non. Alors, pour aller un petit peu plus loin, pour rester dans cette idée de liberté et d'égalité, je vais vous proposer 2 lectures à faire avec vos enfants. Donc d'abord, « Fille-garçon » d'Hélène Druvet. C'est un album poétique et percutant qui invite les petits et les grands à se libérer des stéréotypes, à oser rêver, pleurer, dire non. Bref, être soi sans étiquette. Et ensuite, je vous propose aussi « Garçon et alors » d'Aurélie Fontaine. C'est un portrait de garçons et d'hommes qui bouscule les clichés et qui parle d'égalité avec simplicité et bienveillance. Vraiment, ce sont 2 livres lumineux qui célèbrent la diversité et ouvrent au dialogue dès le plus jeune âge. Alors oui, je le dis, éduquons nos garçons comme des filles, parce qu'ils peuvent pour qu'ils puissent enfin devenir des hommes heureux, épanouis et féministes. Parce qu'au fond, les élastiques, c'est pour les cheveux, les émotions, pour les humains, et le rose, c'est juste une couleur.
Merci beaucoup Anaïs, tu vois, c'était pas fait exprès, mais finalement on a commencé avec la couleur tout à l'heure et justement c'est aussi dans la couleur, exactement.
Tout à fait.
D'ailleurs, ce serait intéressant de découvrir parce que le côté bleu pour gars et rose pour filles, en fait c'est très récent et avant c'était même dans l'autre sens.
Oui, tout à fait. Non mais c'est très récent et c'est juste des clichés qui ont malheureusement encore la vie dure. En 2025, c'est encore difficile.
Voilà. Bon bah en tout cas, c'est important de le dire, c'est une forme de lutte joyeuse également. Anaïs, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast de la Daronne Angevine. Peut-être un coup de gueule, non, tu sais déjà.
Non, je sais pas, je réfléchis.
Ah bon bah voilà, il peut se passer des péripéties d'ici 2 semaines. Tu restes avec nous bien évidemment. On va tout à l'heure conclure avec Florence cette émission, mais avant tout ça, on va rester un petit peu dans le domaine de l'éducation puisqu'on accueille notre deuxième invité de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît.
Et on continue ce soir, on va quitter Angers, on va aller du côté du Lyon d'Angers, même un peu plus tard à Longnay-en-Anjou, puisqu'on est avec Anne-Sophie Billet. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre-Benoît.
Directrice, alors on avait déjà échangé par téléphone l'an passé, je m'en suis souvenu en préparant l'interview, directrice de l'école maternelle Petit Dôme, pédagogie Montessori et par la nature. C'est annoncé comme ça, on en avait justement discuté la dernière fois, à l'occasion des portes ouvertes qui se réitèrent cette année, le 11 octobre de 10h à 13h, suivi, parce que ça va être une grosse journée ce 11 octobre, suivi d'une réunion d'information pour l'ouverture, là, parce qu'on est sur l'école maternelle, mais il y a le projet d'ouvrir potentiellement, en fonction de cette réunion, l'école primaire pour le stade suivant, les 6-9 ans, un petit peu plus loin, on restera, c'est pas très très loin, ce sera au domaine d'Olisson, je ne connaissais pas, c'est à Longenay en Anjou, l'occasion d'en échanger ensemble, bien évidemment, Anne-Sophie, mais avant tout ça, peut-être qu'on va pouvoir représenter cette école, avant même de parler des portes ouvertes, cette école maternelle de Petit Dôme, qu'est-ce que c'est exactement cette pédagogie Montessori et par la nature, c'est quoi le projet ?
Alors, du coup, deux pédagogies qui sont impliquées au sein de cette école. La pédagogie Montessori, donc respectueuse du rythme individuel de chaque enfant. L'objectif, c'est vraiment de respecter le rythme de l'enfant, de lui permettre d'avoir un environnement qui favorise son autonomie, de suivre ses besoins. Et puis, la pédagogie par la nature, c'est vraiment de pouvoir être en contact avec l'environnement, de passer beaucoup de temps dans la nature afin de voir évoluer à la fois la végétation et aussi le monde animal au fur et à mesure des saisons, de comprendre comment il fonctionne, cet environnement naturel. Plus on va être au contact de cette nature et plus on sera respectueux de cette nature, plus on va l'aimer et plus on va du coup le chérir.
Alors ça, du coup, je sais pas si je vais préciser, c'est au Lyon d'Angers, hein, c'est l'école maternelle. Donc là, ce sont les tout petits, on est jusqu'à avant 6 ans. 3 à 6 ans.
En fait, c'est 3 à 6 ans. C'est du coup, la pédagogie Montessori, c'est une des particularités, c'est que c'est inter-âge. Donc il y a à la fois des petites sections, des moyennes sections et des grandes sections ensemble, puisque comme dans la vie de tous les jours, les adultes, nous, on est aussi en inter-âge, on apprend les uns les autres, peu importe notre âge en fait. C'est qui on est, ce qu'on sait, qu'on va pouvoir partager avec les autres. Donc c'est vraiment l'idée de l'entraide, de pouvoir observer ce qui se passe autour de nous, de pouvoir transmettre. Donc l'inter-âge est une grande richesse pour les enfants pour se construire.
Alors j'ai l'impression que quand on s'y intéresse à cette méthode, à cette forme de pédagogie, forcément ça te donne envie. Avant qu'on s'y intéresse, souvent ça fait peur, il y a beaucoup de stéréotypes, il y a des gens que ça rébute. Comment expliquer qu'on soit un petit peu inquiet et comment expliquer que ce soit pas une méthode qui soit généralisée finalement dans l'éducation nationale ? C'est une grande question, hein.
Une grande question. Alors pour répondre aux a priori qu'il peut y avoir, c'est peut-être une incompréhension vis-à-vis de la pédagogie Montessori. En effet, ce qu'on associe à la pédagogie Montessori, c'est l'autonomie. Dans autonomie, on entend liberté. C'est un fait. En effet, les enfants dans la pédagogie Montessori sont libres, mais libres dans un cadre. Comme nous dans la société, en fait. On est libre en France, mais par contre, on a des lois qu'on doit respecter. Et c'est pareil dans un environnement, dans une classe Montessori. Donc l'enfant, il est libre de choisir son travail, par exemple, mais à condition que ça lui ait d'abord été présenté par l'éducateur ou l'éducatrice. Et ça, cette règle, en fait, l'enfant, il l'intègre et il sait du coup que le matin, c'est pas moi qui vais dire, ce matin, tous les enfants, on va faire un atelier peinture. C'est l'enfant qui va choisir, moi, ce matin, j'ai très envie de faire de la peinture, allez, je vais faire de la peinture. Est-ce que ça m'a été présenté ? Oui, donc je peux prendre, je peux faire la peinture. Et ça, pour tout type de matériel, que ce soit la peinture, mais que ce soit de pouvoir prendre des mathématiques, de pouvoir aller en langage, de faire une activité de vie pratique, par exemple, se couper une banane, faire sa vaisselle. Du moment que ça a été présenté, je peux faire. Donc c'est libre, oui, mais dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de liberté, du coup ça devient l'anarchie. En fait, c'est l'a priori qu'on a sur la pédagogie Montessori, c'est les enfants qui décident de tout et qui font ce qu'ils veulent. Non, les enfants, ils ont des libertés, à condition de respecter les règles qui ont été fixées par le collectif. Ensuite, pourquoi c'est pas dans l'éducation nationale ? C'est une bonne question. Et c'est vrai que c'est une pédagogie qui fait ses preuves. Les neurosciences aujourd'hui démontrent que Maria Montessori, elle avait fait des grandes découvertes il y a 100 ans en arrière. Et aujourd'hui, les neurosciences montrent que ces découvertes sont réelles, en fait. Donc ça aurait vocation à s'étendre de plus en plus pour bénéficier à un plus grand nombre.
J'ai l'impression que ça... Moi, ça m'évoque un petit peu le livre qui s'appelle « Libre enfant » de Summerhill, je crois, ça qui relate une école, pareil, peut-être dans les mêmes époques que Montessori, mais qui n'était pas nommé comme ça. Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage.
Oui, l'idée, c'est vraiment la question de pouvoir être acteur de son développement, en fait. Si on est libre, si on est à l'écoute de ses besoins et que, du coup, on vient répondre à ses besoins... En satisfaisant ses besoins, on se développe et du coup, on peut s'ouvrir au monde. C'est vraiment cette idée, la pédagogie Montessori. On peut faire un lien un peu avec la méditation. On a besoin de prendre soin de soi avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. C'est vraiment cette idée-là. On se construit d'abord soi, on se centre d'abord sur soi, on répond à ses besoins. Et si on a répondu à ses besoins, et du coup, là, après, on peut s'ouvrir aux autres. Et du coup, le lien social est beaucoup plus simple est beaucoup plus respectueux. Il y a un prendre soin de l'autre. Donc c'est vraiment cette idée de chacun ses besoins. Donc soyons libres de répondre à nos besoins pour pouvoir mieux vivre ensemble.
En tout cas, on met bien évidemment le doigt sur un sujet de société qui touche un peu tout le monde, la question du bien-être, comment on vit ensemble et comment on prend soin de soi aussi au travers de cette méthode pédagogique finalement. Alors, si ça a piqué notre curiosité, qu'on est parents et qu'on souhaite en apprendre un petit peu plus, justement, il y a ces portes ouvertes le 11 octobre. D'un tout petit mot, la matinée, elle se déroule comment? C'est une présentation, on rencontre les autres enfants peut-être, les parents?
Alors, il y a un accueil qui est fait par, du coup, des parents de l'association. L'école est gérée par une association, donc l'association École Petit Homme. Donc, il y a un accueil qui est fait par les parents qui peuvent à la fois parler de l'association. Et puis, moi-même, je suis présente pour, du coup, présenter qu'est-ce qu'un environnement Montessori. Parce qu'une classe Montessori, c'est un peu différent d'une classe traditionnelle. Il n'y a pas de jouets, en fait. Il y a vraiment du vrai matériel. Les enfants ne jouent pas à faire la vaisselle. Ils font réellement la vaisselle, par exemple. Les enfants ne vont pas jouer à préparer un repas. Ils vont réellement préparer un repas. Etc. Donc pour présenter un peu cette ambiance et puis parler justement de qu'est-ce que la pédagogie Montessori, répondre à tous les a priori qu'on peut avoir pour venir justement amener des arguments sur quelle est la pertinence de cette pédagogie et qu'est-ce que ça permet de venir développer que ça permet de développer justement le potentiel de l'enfant. Parler aussi de la pédagogie par la nature, se rendre compte que voilà, nous notre école, on n'a pas du goudron autour de nous, on a de l'herbe, on a un espace arboré, on a un potager. Les enfants, ils sont au contact de la nature, ils peuvent patouiller à la fois dans le sable, à la fois dans la terre, ils sortent par toutes les météos parce que jouer au soleil, c'est sympa, mais jouer sous la pluie, c'est vraiment très amusant aussi. Et voilà, c'est vraiment pouvoir se rencontrer et échanger et voir un peu cet environnement qui donne envie.
Combien d'élèves, Anne-Sophie, dans l'école maternelle actuellement?
Actuellement, on a 11 élèves.
11 élèves. Et potentiellement, du coup, on va quand même prendre le temps avant que le temps soit écoulé d'évoquer la réunion d'information qui aura lieu l'après-midi. Potentiellement, il y aurait une école primaire qui pourrait s'ouvrir en fonction de l'intérêt que les parents auraient, peut-être les parents d'enfants qui sont actuellement dans l'école maternelle ou de nouveaux parents. On peut avoir plus d'informations, Anne-Sophie, sur cette réunion?
Alors, justement, c'est vraiment ce que vous avez dit. L'idée, c'est que les enfants qui ont fini leur cycle de maternelle à l'école Petit Homme, les familles souhaiteraient qu'il puisse y avoir une continuité parce que ils voient l'épanouissement de leur enfant au sein de cette école et ils ont envie que ça se poursuive. Et également parce qu'on a d'autres familles de l'extérieur qui ont pu venir justement à des portes ouvertes qui nous demandaient pour la suite en fait, qui étaient très intéressées à partir de 6 ans et qui étaient déçues que dans les environs du Lyon d'Angers, actuellement, il n'y ait rien. Donc l'idée, voilà, c'est de se réunir et voir combien en fait de personnes sont intéressées pour lancer ce projet. L'idée, c'est sur le domaine de l'Essen, qui est un domaine du coup privé où il y a une forêt, il y a des animaux également, où l'idée serait de installer une yourte et de pouvoir du coup avoir l'école dans la yourte et de bénéficier du coup de cet espace nature, vraiment du coup à proximité pour les enfants de 6 à 9 ans.
Et voilà de quoi éveiller des interrogations et avoir des réponses aussi le 11 octobre concernant ce qui est proposé par l'école Petit Dôme. Merci beaucoup Anne-Sophie Billet, directrice de l'école maternelle pour l'instant Petit Dôme au Lyon d'Angers. Donc on rappelle les infos pratiques quand même avant de se quitter. 11 octobre, 10h-13h pour les portes ouvertes. L'après-midi à partir de 14h30, du coup, cette réunion d'information sur la possibilité d'ouvrir un nouveau projet d'une école primaire pour les plus grands. Peut-être un collège un jour, qui sait. Pour le reste, des informations, où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'on a des contacts ou des réseaux sociaux éventuellement?
Alors, il y a le Facebook de l'école Petit Homme. Également, vous pouvez aller envoyer un mail à l'association École Petit Homme. Donc, c'est association.écolepetithomme@gmail.com. Il y a un numéro de téléphone également, le 07 69 84 58 30.
Voilà, et Petit Homme, parce qu'à l'oral, ça s'entend peut-être pas, c'est petit, d'apostrophe, homme. Voilà, comme l'homme.
C'est ça, et donc dans l'adresse mail, c'est tout attaché. P-E-T-I-T-D-H-O-2-M-E.
Exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie Billet d'avoir pris le temps pour nous présenter ça ce soir.
Merci, cher Benoît.
Dans Topette. Topette, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup Anaïs, Sidonie. Vous avez passé un bon moment? Je ne vous ai pas posé la question, Sidonie.
Très bon moment, j'ai trouvé ça très très intéressant.
Ah ben voilà, t'en apprends des choses. Anaïs,
très sympa. Ravie de découvrir un petit plus d'informations sur le théâtre du champ de bataille où j'emmènerai mes enfants avec plaisir.
Et ben voilà, ben Florent, t'es venu là pour ça finalement. Donc oui. Tu vois, t'as déjà deux abonnés supplémentaires. Est-ce que c'est un système d'abonnement
ou... On peut, sinon on réserve sur le site. Voilà, pour les enfants, c'est 6€ tarif unique.
Et ben voilà, bah tout est dit. Non, il y a un petit peu plus à dire. D'ailleurs, je vois, c'est dommage, on n'a pas pu en parler, mais le mercredi 1er octobre, parce que c'est passé bien évidemment, il y avait une lecture musicale justement à partir de 7 ans pendant 35 minutes. Donc ça aussi, c'est la preuve que bah, on pense aux enfants au théâtre du champ de bataille.
Exactement, et puis on a aussi du cinéma pour les enfants, on a des ciné-familles, donc là j'ai pas le temps de développer, mais je vous invite à aller voir, il y a des films pour les petits, pour les grands, et on organise une journée famille autour de ça, pour voilà, où on peut jouer, danser, prendre un temps avec ses enfants et rester sur place si on a envie. Il y a un goûter qui est offert, enfin voilà.
Et il n'y a pas que pour les enfants, il y a aussi pour les...
C'est oui, bien évidemment.
Question d'adultes, c'est la programmation pour des spectacles plus matures, on va dire.
Ouais. Pour les grands, ce sera Un monstre à Paris qui sera passé le 23 novembre. Et le matin, c'est un court-métrage autour de la musique. Des courts-métrages pour les petits.
Et comme tu viens de le dire, tu n'as pas le temps de tout développer. Donc c'est pour ça que tous les mois, tu viens là avec ton équipe pour nous parler de la programmation, des actualités éventuelles du théâtre du champ de bataille. Et puis qu'on peut découvrir via la plaquette le reste de la programmation sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est le compte Insta, hein, tout récemment.
Insta et Facebook, ouais.
Voilà,
ouais.
Théâtre du champ de bataille sans S.
Ouais.
À Champ.
Tout à fait, c'est ça. Ouais.
Bah voilà, bah tout est dit. Merci beaucoup, Florent. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, tout va bien.
Eh ben, on se retrouve le mois prochain. Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Topette. On va se quitter avec la Minute Biodie. Voilà, on va respirer un petit peu. On va s'intéresser, je crois, aux chauves-souris ce soir. Tu connais les chauves-souris, Sylvanie ?
Oui, les chauves.
Souris. Ça te fait pas
souris.
Peur, les chauves-souris ne te font pas peur ?
Non, c'est bon, ça va.
Bon, bah voilà, tu peux rester à l'écoute. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette.
Connaissez-vous bien les chauves-souris ? C'est la question du jour dans la Minute Biodive avec la LPO Anjou. On entend parler de chauves-souris qui boivent du sang, qui s'accrochent aux cheveux des humains, qui ont la rage. Mais combien de ces histoires sont vraies ? Je vous propose aujourd'hui de plonger au cœur de la nuit pour partir à la rencontre de ces petites boules de poils qui n'ont rien d'effrayant une fois qu'on les connaît bien. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les chauves-souris prolifèrent, ou bien qu'elles s'accrochent aux cheveux des humains, ou encore qu'elles boivent du sang. Et si je vous disais que tout ça, c'est faux ? Ou du moins, en partie. Il existe bien des chauves-souris qui boivent du sang. On en compte 3 espèces, et elles vivent toutes en Amérique du Sud. Elles s'alimentent essentiellement sur des animaux d'élevage, et prélèvent tellement peu de sang que les animaux n'en meurent pas. En Europe, les chauves-souris que nous retrouvons se nourrissent quasi exclusivement d'insectes. Alors par contre, les chauves-souris ne se prennent pas dans les cheveux des humains. On dit souvent qu'elles sont aveugles, mais ce n'est pas vrai. Elles ont des yeux, mais surtout, elles ont une ouïe qui est bien plus développée que la nôtre. Elles utilisent donc ce qu'on appelle l'écholocalisation pour s'orienter dans l'espace. Mais qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous ? Eh bien en fait, les chauves-souris émettent et reçoivent des ondes ultrasonores qui leur indiquent les obstacles ou les proies situées aux alentours. Elles sont ainsi capables de détecter des objets de la taille d'un seul cheveu humain. Il n'y a donc aucun risque pour qu'elles viennent s'y accrocher. Et alors que sait-on des chauves-souris ? Comment vivent-elles ? Les chauves-souris sont des mammifères volants. C'est d'ailleurs le seul mammifère qui est réellement capable de voler. Alors je vous entends déjà me rétorquer que c'est faux, puisqu'il existe les écureuils volants. Et c'est même dans leur nom. Alors c'est vrai, je vous l'accorde. On les appelle comme ça. Mais en fait, ils ne volent pas vraiment. C'est plutôt qu'ils planent, alors que les chauves-souris, elles volent vraiment. Il s'agit d'un vol qu'on appelle actif, à l'inverse des écureuils volants qui, eux, utilisent un vol passif. Ce que nous appelons les ailes des chauves-souris, ce sont en fait une équivalence de nos mains. On y retrouve 5 doigts, reliés entre eux par une peau très très fine qu'on appelle le patagium. Et alors cette peau, elle sert aussi de protection, puisque quand la chauve-souris se repose, elle peut s'envelopper dedans et ça fait comme une couverture. On peut retrouver des chauves-souris un peu partout. Dans des châteaux ou des églises, dans des arbres, des sites souterrains, même en ville. Certaines espèces sont arboricoles, comme la noctule commune, qui apprécie particulièrement les cavités dans les troncs de platane. Par exemple, quand les pivers créent leur loge au creux du tronc, puis la désertent, on peut retrouver des noctules qui se sont installées dedans pour mettre bas. Par contre, d'autres espèces sont plus attachées au bâti et c'est pourquoi on peut en retrouver dans les vieux bâtiments, voire dans les greniers des maisons. Les chauves-souris ont un cycle biologique qui est lié aux saisons. À chaque saison, sa tâche. Au printemps, les femelles cherchent un abri pour mettre bas. Arbres creux, combles, ponts. Ce lieu doit pouvoir être à l'abri des dérangements et suffisamment chaud pour permettre aux jeunes de se développer. Les mâles sont souvent solitaires à ce moment-là. Quand l'été arrive, les femelles se regroupent en colonies, mettent bas et élèvent leur unique petit de l'année. Et oui, les chauves-souris ne font qu'un seul bébé par an. Elles sont donc loin de proliférer. Et les petits deviennent autonomes dès le mois d'août. En automne, mâles et femelles se réunissent en larges groupes pour s'accoupler. Et en hiver, certaines gagnent des sites souterrains tranquilles, comme des grottes, des caves ou des mines, pour hiberner jusqu'au retour du printemps. Mais alors, si on a bien suivi, les chauves-souris s'accouplent en automne et mettent bas 9 mois plus tard comme les humains? Eh bien oui, mais il y a une différence clé entre nos deux fonctionnements. Chez les humains, les 9 mois servent à faire le grandir le bébé à l'intérieur du ventre pour qu'il puisse survivre à la naissance. Alors que chez les chauves-souris, il y a une capacité fascinante. Elles peuvent stocker le sperme du mâle le temps de l'hibernation et déclencher seule la grossesse au cours du printemps. On appelle ça la fécondation différée et on retrouve aussi cette faculté chez les cervidés. Ce fonctionnement leur permet de ne pas mettre bas si les conditions ne sont pas assez bonnes. Par exemple, s'il manque de la nourriture. C'est bien pratique, non? Et comme je vous le disais plus tôt, les chauves-souris en Europe se nourrissent quasi exclusivement d'insectes et autres arthropodes, comme les araignées ou les coléoptères. Elles peuvent consommer jusqu'à la moitié de leur poids en insectes chaque nuit. Par exemple, on estime qu'une colonie de 500 grands murins consommerait au cours d'une saison d'activité près d'une tonne d'insectes. Et une pipistrelle commune pourrait consommer jusqu'à 3000 moustiques par nuit. Alors ça, c'est bien utile pour nous. Et en Maine-et-Loire, il est possible de retrouver des chauves-souris dans tous les types de milieux. Bocage, prairie, centre-ville, forêt. L'espèce la plus fréquente s'appelle la pipistrelle commune. Mais on retrouve aussi des espèces plus vulnérables, comme la noctule commune ou le rhinolophe eurial. De façon assez générale, les populations de chauves-souris sont menacées par la disparition des insectes, notamment liées à l'usage de pesticides dans l'agriculture, mais aussi par la perte d'habitat avec les travaux de rénovation thermique, entre autres, et par l'installation d'éoliennes dans des lieux de passage. Pour les espèces arboricoles, on remarque aussi que les habitats ont tendance à disparaître avec l'abattage d'arbres morts. Alors pour enrayer ces déclins, la LPO Anjou travaille en partenariat avec d'autres structures, comme le groupe chiroptère des Pays de la Loire, le GCPDL, pour protéger ces petites boules de poils. Des suivis de population sont organisés en été comme en hiver, des actions de sensibilisation sont menées auprès de structures publiques, de particuliers ou encore d'entreprises privées pour améliorer la prise en compte de ces mammifères. La LPO Anjou s'appuie aussi sur des protections physiques et légales pour protéger les habitats. Vous croiserez peut-être des caves dont l'entrée est empêchée par des grilles, par exemple. Ces grilles sont là pour empêcher les humains de rentrer et de dégrader les caves, mais les chauves-souris, elles s'y faufilent sans souci. Et si vous en accueillez chez vous, vous pouvez vous aussi participer à leur protection. En devenant un refuge pour les chauves-souris et en participant au suivi, vous pouvez nous aider à mieux connaître leur population, leur mode de vie et comment les protéger. En plus, les regarder danser contre le ciel est toujours un spectacle fascinant. Alors profitez de la vue et protégez les chauves-souris.
La passion. www.radio-g.fr.